Merci d'écouter Radio. Il est midi, tout de suite, les titres de votre journal local, présentés par Torea Combe. Bonjour Torea.
Bonjour Benny, bonjour à tous. C'est la nouvelle de la matinée. Théali Alpha a été démis de ses fonctions de vice-président. Des précisions en début de ce journal. Justice, l'affaire Théron est à nouveau renvoyée, cette fois-ci pour le 3 mars prochain. Plus d'explications dans notre édition. La COP26 se poursuit, mais qu'en est-il aux Fénois? Jason Mann nous donne son opinion. Ce sont les titres que nous développerons dans le journal de midi.
Et on commence tout de suite avec l'annonce de la journée. Théali Alpha n'est plus vice-président.
En effet, hier soir, en comité de majorité, Édouard Fritsch a annoncé que Théali Alpha, qui refuse toujours de se faire vacciner contre le Covid, perdrait son poste de vice-président. Il conserverait tout de même le portefeuille de ministre de l'Agriculture, de l'Économie bleue et du Domaine, également en charge de la recherche. C'est donc plus un coup de règle sur les doigts plutôt qu'une sanction véritable. Son successeur à la vice-présidence n'est pas encore connu. Le président du pays dispose de 2 semaines pour nommer son remplaçant. Aucune sanction en revanche n'a été prise contre Gaston Tong-Song.
L'affaire Théron maintenant, un nouveau renvoi.
Le procès du docteur Théron poursuivi pour des faits de violence aggravée envers un huissier de justice a été de nouveau renvoyé ce jeudi au 3 mars prochain. Un renvoi demandé et accordé suite à l'absence du principal intéressé pour des raisons médicales, comme le confirme son défenseur Maître Millet.
Encore un renvoi, simplement pour motif médical. Le docteur Théron ne pouvait pas se présenter aujourd'hui. Son médecin lui interdit, même s'il aurait, parce qu'il souhaite être physiquement présent pour cette audience. C'est une audience importante. Et donc, cette fois-ci, le tribunal a bien pris en compte son état de santé médical. Et on a un renvoi donc au 3 mars qui permettra certainement au docteur Théron de se rétablir.
Pour le défenseur, la présence du docteur Théron est indispensable pour la bonne tenue du procès, car selon lui, il y a des faits qui sont discutés et discutables. Pour son avocat, il est important que le docteur Théron soit présent, ainsi que les témoins des incidents, pour faire la vérité dans tout cela.
D'une manière générale, dans des affaires pénales, les prévenus doivent comparaître, c'est le principe. Et là, en particulier, on a des faits qui sont discutés, qui sont discutables, et il y a beaucoup de faits. Donc c'est important d'avoir et le docteur Théron et les témoins des incidents pour pouvoir découvrir la vérité dans tout cela.
Rendez-vous le 3 mars 2022, où cette fois, le fond de l'affaire sera évoqué, ainsi que les moyens de nullité que compte bien déposer la défense du praticien.
Et puis il y a eu une séance animée aujourd'hui à l'Assemblée, dis-moi Torea.
Oui, l'ordre du jour était chargé ce matin. Et comme souvent, c'est la santé qui a soulevé le plus de débats entre les élus. Charlie René, vous êtes sur place.
Allô ?
Allô Charlie ? Alors dans un moment, Charlie devrait peut-être être sur cette ligne. Allô Charlie ?
Oui, je suis là.
On t'a perdu dans les fils du téléphone, hein. T'es passé sur une autre ligne. Très bien. Comment vas-tu Charlie ?
Eh bien, très bien. Je suis à l'Assemblée en ce moment même et comme vous venez sûrement de le dire, 2 textes sanitaires ont été présentés ce matin. 2 textes sanitaires qui ont fait beaucoup de débats. D'abord, un rapport très attendu sur les évacuations en pleine crise de la PSG. Les 2 milliards de coûts annuels de ces évacuations urgentes ou non posent question. Mais le rapport que Radio 1 payait déjà la semaine dernière ne penche pas réellement vers des économies. En tout cas, pas tout de suite. Plus de soignants peu qualifiés, plus d'hélicoptères, plus d'aménagements, plus d'antennes du SMUR et au passage plus de prévention. 90 propositions au total. Quand j'ai vu la liste des dépenses, j'ai cru qu'il fallait évasionner le ministre des Finances, ironise un membre du gouvernement. Le gouvernement qui, justement, va prendre quelques semaines pour analyser toutes ces mesures et faire des propositions de financement. Un exercice difficile en pleine réforme de la PSG. Et l'autre sujet sanitaire, c'est bien sûr l'obligation vaccinale. Vous le savez, le président Fritsch a reconnu il y a quelques semaines des incompréhensions dans la population et proposé de repousser l'application des amendes de cette obligation au 23 décembre, à la base du 23 octobre. Vous voulez gagner du temps pour parfaire les contrôles et préparer le pass sanitaire, dénonce Nicole Sanquer, qui a voté contre ce report, comme Félix Tokoragi, que sa commune de Makemo est vaccinée à 92% sans utilisation de la contrainte. Alors le débat est toujours en cours, mais le Taura, lui, a déclaré qu'il n'était pas contre ce report, mais proposait de baisser l'amende jugée successive. Le Tavigny a aussi procédé à une longue déclaration. On sait que le parti indépendantiste est divisé sur la question, mais par la voix de Richard Pouliava, il a appelé à arrêter les amalgames. Être non vacciné, ce n'est pas un choix politique, c'est un choix personnel, a expliqué l'ancien sénateur, avant de militer pour la naturopathie et des traitements qui n'ont pas fait leur preuve contre le Covid. Bref, l'Assemblée est beaucoup plus divisée qu'en septembre dernier sur cette question d'obligation. Les manifestations sont passées par là. Édouard Fritch, lui, a campé sur le principe de cette loi. On ne va pas laisser cette pandémie venir nous affaiblir à nouveau et hypothéquer le lendemain de nos enfants. Préparons-nous, a-t-il appelé. Spectre d'une reprise épidémique en début d'année prochaine est une nouvelle fois évoqué. Le président, au passage, reprochait à l'opposition de jouer aux apprentis médecins, de préparer surtout les prochaines élections. Toléa.
Merci Charlie pour toutes ces précisions.
Et on continue avec l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, avec des conséquences sur le Fénouin, oui ou non, Toléa?
Oui, et comme on peut le constater, c'était un ordre du jour chargé qui a débuté par la présentation du rapport d'information sur les conséquences de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. La question est claire, que se passera-t-il au Fénouin si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante ou sombre dans l'instabilité? Des éléments de réponse avaient déjà été distillés au travers de deux sondages dont l'un prévoyait une potentielle émigration de 9000 personnes vers le Fénouin. La mission d'information pointe aussi vers des velléités d'investissement immobilière, mais le Covid a chamboulé beaucoup de choses. Écoutez son rapporteur Philippe Schill.
Dans les auditions, notamment avec des responsables socio-économiques polynésiens, un certain nombre d'entre eux évoquaient le fait que beaucoup de Calédoniens étaient venus en Polynésie avant justement la suspension des liaisons aériennes. Beaucoup étaient venus ici pour prospecter. Et c'est vrai que cette longue suspension aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, aujourd'hui, elle interroge. Parce que est-ce que lorsque les frontières rouvriront en début d'année prochaine, est-ce que ces mêmes Calédoniens qui sont venus à un moment donné ont l'intention de venir effectivement ici? La question, elle se pose.
Si certains ont pointé du doigt un rapport incomplet, tout le monde s'accorde à dire que le pays doit assurer une veille de la situation de la Nouvelle-Calédonie. Édouard Fritch a évoqué la création d'un observatoire des flux humains et financiers d'une délégation polynésienne à Nouméa et a précisé que le Fénouin honorera sa tradition d'accueil tout en préservant son foncier de la spéculation. Une équation difficile.
C'est une équation effectivement qui est difficile, d'autant plus que les Calédoniens sont français. Et donc, comme tout ressortissant français, la Polynésie française doit aussi accueillir les ressortissants français sans faire de distinction. Mais en même temps, il faut aussi veiller à préserver les équilibres socio-économiques qui sont quand même fragiles ici en Polynésie française, notamment en matière d'emploi, en matière aussi de foncier, de risque de dérapage au niveau du coût du foncier. Oui, l'équation est extrêmement difficile à tenir.
Des propos recueillis par Charlie René.
Allez, la COP26, un débat sur l'environnement au Fénouin.
Alors que se tient depuis dimanche la 26e conférence sur le climat à Glasgow en Écosse, Jason Mann, le militant écologiste polynésien, a voulu souligner l'urgence de la situation au micro de Radio 1. Le militant veut faire passer un message, sauver le monde face au catastrophique impact du réchauffement climatique. Pour lui, la COP26 ne devrait pas se limiter aux interventions et promesses des dirigeants. Les organisations de la société civile ont aussi leur place. Le militant pointe du doigt le rôle de Maïna Sage au sein de la COP26. La députée sera présente à Glasgow du 7 au 9 novembre au titre de membre de la délégation de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale.
Est-ce que le gouvernement a fait un appel d'avis ou de message à faire transmettre à la COP26? La réponse est non. Donc je pense que c'est un peu avant-gardiste de se porter porte-parole de la population de la Polynésie française si la population de la Polynésie française n'a pas été consultée pour ce sommet. Donc je pense pas vraiment. Et en même temps, je pense que c'est juste question de faire acte de présence, qui est aussi à peu près important. Mais dans tous les cas, non, les messages qu'on peut porter pour le climat en Polynésie française, je pense pas qu'ils ont été forcément amenés à la COP26 par Maïna.
Concernant la montée des eaux, l'écologiste estime que la Polynésie doit monter le ton.
Le gros souci dans le Pacifique et nos chers cousins du Pacifique ils commencent déjà à le subir, c'est surtout la montée des eaux. Il se trouve qu'on a un certain sursis par rapport à ça, ce qui est une bonne chose d'un sens et une mauvaise chose d'un autre, parce que du coup vu qu'on le perçoit pas encore assez, c'est qu'on comprend pas que ça va s'accélérer et que ça va devenir très 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 grave. Et donc surtout ça pour toutes les îles et les nations insulaires. Et après ben le climat qui change, là on le voit, les sécheresses qu'on a subies, la saison des pluies qui arrive à un mois voire deux mois trop tôt, ce genre de choses. Et comprendre que ça urge quoi.
Les propos recueillis par Wallis Glaise. Merci beaucoup d'avoir suivi notre édition. Nous passons maintenant à l'écoute de votre répondeur.